Approchez. Plus près.
À trois, ouvrez les yeux et dites-moi ce que vous voyez.
Un, deux.
Libradio, www.libradio.org. Un regard beau comme un prolétarien, sur un monde turbide comme un bourgeois. Quitte la fange, rejoins la gang. info@libradio.org.
Voilà, nous voilà donc de retour en direct et en public depuis l'Almacène à l'occasion de la 10e édition du festival Les Sans Culottés, d'un festival, comme on l'a déjà énoncé, solidaire, athée, socioculturel et anticonsumériste. Ça fait beaucoup de choses pour un si petit festival, mais en fait, on en est assez fiers de dire qu'on est tout ça. Alors, pourquoi il est anticonsumériste ? Parce que notamment, eh bien, nous avons un grand magasin gratuit que l'on recommande à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, venez ici en plein cœur des Grottes, 6 rue des Grottes, ou 6 rue des Amis selon de quel côté on entre. Et il y a des jouets pour les enfants, il y a des habits pour les filles, pour les garçons, pour tout le monde en fait, et également des chaussures, enfin plein d'accessoires comme ça qui sont gratuitement à votre disposition. Il y a également des concerts, il y a également la radio en public, donc avec une température du peuple permanente. Donc si des personnes souhaitent venir exprimer des ressentis, eh bien c'est bienvenu. Le programme et plein d'informations se trouvent sur le site de la radio, www.libradio.org. J'en profite pour saluer toute l'équipe de Fréquence Banane hein, qui propulse Libradio. Fréquence Banane, c'est la radio des universités de Lausanne et de Genève. Et les deux équipes, hein, une à Lausanne et une à Genève, sont au travail, même si on est en fin d'année. Et donc on les remercie, on les encourage pour la suite des opérations. Bienvenue Audrey.
Merci.
Comment ça va ?
Ça va bien, ça va bien.
Ça va un peu comme ça. On est tous un petit peu malades, donc on va essayer de faire.
Ouais, si je renifle, si je tousse, ben c'est le froid qui fait ici.
Ah ouais, absolument. Oui, il faut le dire, nous sommes dans des endroits extrêmement vétustes, mais c'est un peu spartiate finalement, donc
c'est très bien, c'est chaleureux.
En tout cas, nous, on est ravis de te recevoir. Nous étions vus il y a cela quelques mois pour parler justement, et nous allons en reparler, de l'association donc de Interaction, qui est l'association suisse pour les intersexes.
C'est ça.
On avait fait plus d'une heure même d'entretien, on va être plus
une heure et demie, je crois, 1h40.
Mais c'était parce que c'était effectivement extrêmement intéressant, extrêmement dense, ça nous avait beaucoup touché. Et on avait envie, en cette fin d'année, de reprendre de tes nouvelles et de vos nouvelles à l'association. Alors, voudrais-tu nous en donner de ces nouvelles ?
De ces nouvelles ? Ben alors, juste, peut-être que pour les personnes qui n'avaient pas écouté la dernière fois, l'association Interaction, c'est une association suisse pour les personnes intersexes et les proches et les alliés. Donc en fait, on a trois buts. C'est de sensibiliser les personnes, la population, à l'existence des personnes intersexes. Pour qu'on sache, en fait, tout simplement qu'on existe. Ensuite, c'est de créer des lois et pour arrêter les opérations et les mutilations sur les enfants intersexes. Quand j'entends, genre, je dis opérations, mais c'est tous les traitements, donc aussi les traitements hormonaux, par exemple, ou des choses comme ça, qui ne sont pas consentis et avec le consentement éclairé. Et aussi de créer un safe space et une communauté intersexe, parce que, bah, en fait, la communauté intersexe, elle est invisibilisée, de par les opérations, mais aussi socialement. Et donc du coup c'est compliqué pour les personnes intersexes d'aller parler dans les médias ou d'aller parler politiquement ou de se battre pour leurs droits ou même de les connaître. Et donc du coup c'est important de créer une communauté pour qu'on soit une communauté saine. Et donc là depuis l'année passée on s'était vu, ça faisait quelques mois seulement qu'on existait, donc là ça fait un an et quelques mois. Ben écoute, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a créé un réseau avec différentes associations LGBT, on a été à quelques conférences sur les droits des personnes intersexes dans le milieu européen. Donc on est maintenant membre officiel de l'OI Europe, l'Organisation internationale des intersexes pour l'Europe. On a de plus en plus de membres. On a des membres maintenant dans la Suisse allemande, dans la Suisse romande. Non, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. On commence à nous connaître, on commence à être
reconnus. Et puis... Absolument. Mais c'est identifié comme il se doit, je veux dire. Alors, il va falloir évidemment que tu nous redéfinisses ce
bien
que
sûr,
signifie.
Je m'y attendais.
Je suis obligé.
Non, c'est logique.
Et ça me permet de dire aux personnes qui sont autour de nous que si elles souhaitent te questionner, eh bien, rien de plus facile, il faut vous rapprocher, prendre un micro et puis c'est OK.
Ouais.
Alors voilà, qu'appelle-t-on une personne intersexe ?
Alors une personne intersexe, c'est une personne qui a des variations dans ses caractéristiques sexuelles. Donc des caractéristiques sexuelles, ça peut être des hormones, donc ça peut être les hormones qu'elle produit, ou ça peut être comment elle les... comment elles sont acceptées par le corps. Ça peut être des chromosomes, donc XX, XY, XXY, X0, XXXY. Enfin, il y a vraiment une infinité de différentes choses. C'est aussi dans les organes génitaux internes, externes. Donc, par exemple, les testicules, des gonades. Ça peut être un clitoris qui est soi-disant plus grand. Ça peut être des chromosomes qui ne sont pas par rapport au sexe qui était assigné à la naissance, qui ne sont pas... selon les critères habituels et médicaux, qui ne vont pas ensemble. C'est juste des personnes qui ne remplissent pas les critères vraiment médicaux et sociaux de ce qu'on considère être une femme et ou un homme.
Alors voilà, et alors, qu'est-ce qui se passe quand vient au monde une personne intersexe ?
Donc, quand vient au monde une personne intersexe, ça, comme pour les autres personnes, c'est très varié. En fait, il y a des personnes intersexes où on apprend qu'elles sont intersexes avant la naissance. Donc déjà dans le ventre, on voit que c'est probablement un enfant qui est intersexué. Et donc du coup, il se peut que les médecins aillent proposer un avortement, par exemple, ou qu'on propose des traitements déjà in utero, donc déjà à la mère. Pour, par exemple, dans certains cas, on donne de la dexaméthasone, qui est une hormone, qui va faire en sorte que le clitoris de l'enfant, de la fille, parce que c'est toujours des filles, descende de quelques points près d'heure, qui a une échelle complètement barbare, qui met de 1, je crois que c'est les hommes, et puis de 0, enfin, je ne sais plus les chiffres, mais c'est égal, mais enfin, ça met
c'est un curseur
de femme à homme. De femme à homme, voilà. Et donc, du coup, ben, là, l'enfant, il va dans près d'heure 4 à 2, ou je ne sais pas, on peut gagner 2 points près d'heure. Donc, wouhou !
C'est la victoire.
C'est la victoire, c'est génial.
Non, mais
c'est ridicule. Après, il y a des enfants où on découvre à la naissance. Donc, du coup, ces enfants, ben, ça dépend du médecin qu'ils ont, comme tous les autres aussi. On peut proposer des opérations. En tout cas, il y a toujours un secret. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler aux proches. Maintenant, dans les hôpitaux en Suisse, on travaille de plus en plus avec des équipes qui sont pluridisciplinaires. Ça veut dire que c'est des équipes avec un psychologue, un endocrinologue, un chirurgien, un urologue, des fois un travailleur social, enfin, plein de médecins différents. Mais je précise bien médecin et des fois un travailleur social, mais ben, des personnes du milieu médical qui vont du coup donner des conseils aux parents sur des conseils qui vont expliquer en fait aux parents le syndrome ou la maladie ou la différence qu'a leur enfant. Ça dépend toujours aussi un petit peu du médecin, parce qu'il y a des médecins qui sont plus au courant, il y a des médecins qui sont plus sensibilisés, il y a des médecins qui sont complètement réfractaires au changement. Les parents, ils tombent des nues parce qu'ils se retrouvent du coup après la naissance de cet enfant qu'ils ont attendu pendant 9 mois, peut-être plus, qu'ils ont essayé, etc. Et là, la maman, elle est fatiguée, enfin, je sais pas, et on les met dans une pièce avec plusieurs médecins où on parlait des organes génitaux de l'enfant, des organes génitaux qui sont fonctionnels pour la grande majorité des cas, parce que des fois, il y a des problèmes aussi avec l'urine, mais après, on peut faire une opération, un truc pour que l'urine puisse sortir, mais le fait qu'un clitoris soit plus grand, ça pose aucun problème de santé. Si des gonades produisent de l'œstrogène ou de testostérone, ça pose aucun problème de santé non plus. Si c'est un produit un peu des deux, ça pose aucun problème non plus. Et après, en fait, on va leur expliquer que l'enfant va pas forcément pouvoir avoir un rapport sexuel hétérosexuel ou des choses comme ça. Et donc, du coup, en fait, ça va créer une... Mais qu'on peut corriger au moment venu, etc., etc. On se retrouve dans une situation pareille en tant que parent, ben, logiquement, nous, en tant que parents, on a envie d'avoir un enfant qui est, entre guillemets, normal, qui est épanoui, qui est heureux, qui est en pleine santé. Et quand c'est la première chose qu'on dit de l'enfant, avant de dire « Ah, bravo, vous allez avoir, je sais pas », ça met tout de suite en stress, en fait, auprès des parents. Et donc, du coup, on parle souvent de la détresse parentale quand on a un enfant qui est intersexe. Cette détresse parentale qui, du coup, pousse certains parents à décider d'opérer ou de donner un traitement, etc. Oui, et après, il y a certains enfants où on ne sait pas à la naissance. Parce que quand ils naissent, avec les tests arbitraires et pas du tout satisfaisants, on écarte les jambes du bébé, on dit « Ah, c'est une fille » ou « Ah, c'est un garçon ». En fait, le sexe, c'est plusieurs caractéristiques sexuelles, comme je l'ai dit avant, les hormones, les chromosomes, etc. Et donc, du coup, l'enfant... ça va se découvrir après avec la puberté, parce qu'il va se développer d'une manière ou d'une autre. Peut-être que l'enfant qui a signifié n'aura pas ses règles, ou va avoir, n'importe, ça peut être plein de choses différentes.
Ouais. Nous allons voir tout à l'heure un documentaire qui parle justement de ces premières années, lorsque l'on est un enfant intersexe et que l'on subit toutes ces mutilations. Parce que c'est effectivement des opérations qui se succèdent. Mm-hmm. Et puis pas que. J'ai envie de dire qu'après ça, il y a effectivement à vie.
Mais il y a tout.
Voilà. Alors, Juste pour en revenir au corps médical, parce que c'est vrai que quand tu dis, voilà, il y a une sorte de structure pluridisciplinaire qui se met en place, on pourrait dire, ah tiens, peut-être que là, il y a quelque chose d'intéressant dans le sens où on va également parler d'éthique et donc de consentement éclairé, etc. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ces équipes pluridisciplinaires sont là pour, comment dire, appliquer des normes et finalement...
Ben c'est compliqué à dire ça, ouais, franchement, ouais. Parce que ça dépend toujours des hôpitaux dans lesquels on est, ça dépend toujours des médecins, parce que les médecins, ben, finalement, c'est des personnes qui ont été formées ou pas, qui ont rencontré des personnes intersexes ou pas, qui ont eu une expérience ou pas. Donc, on ne peut pas, je pense, généraliser tout ça. Mais il n'en empêche ben, que quand on se retrouve avec des médecins, ben, en fait, ils vont... Normalement, aujourd'hui, je n'ai jamais été dans une équipe pluridisciplinaire à ce moment-là, mais... On devrait, au moins c'est ce qu'on nous dit, on dit qu'il ne faut pas opérer, que l'enfant est sain, etc., etc., mais que l'opération est possible, ou même qu'elle va être faite quand l'enfant l'aura décidé, donc quand l'enfant la voudra. Mais ce n'est pas genre si l'enfant la voudra, c'est quand l'enfant la voudra. Donc déjà, on voit qu'il y a... Bon, en fait, l'opération, c'est de toute manière un but final.
Que ce soit, va, quoi qu'il en soit,
quoi qu'il
le
en
chemin,
soit ce sera le chemin, passage, ce sera voilà. Le passage. Donc si que ce soit à 6 mois, ou à 1 an, ou à 5 ans, ou à 10 ans, ou à 12 ans, il y aura l'opération parce que l'enfant la voudra. Et donc du coup, on se retrouve dans cette situation-là avec les parents qui voient des médecins et puis qui vont leur dire, bon, en fait, votre enfant va décider d'une opération, mais il est en pleine forme, mais bon, ok, c'est un peu différent, bon, il ne faudra pas forcément parler autour de vous, il faudra nanana, nanana. Et donc, les parents, ben, parce que c'est des humains, et qu'en plus, ils ont rarement été informés, en fait, de l'existence des personnes intersexes.
Et qui sont dans une situation, comme tu l'as dit tout à l'heure...
Totalement délicate, enfin, parce que... Et donc, du coup, selon les parents, et souvent, en fait, justement, les médecins, ils justifient de plus en plus les actions qu'ils font, parce qu'ils se rendent bien compte, gentiment, que ça va être des violations, en fait, des droits humains, parce que enfin, l'ONU, ou la Commission européenne des droits de l'homme, ou n'importe, parlent contre les opérations et disent qu'il faut arrêter ces mutilations sur des enfants qui sont sains et sans le consentement éclairé.
Donc ça, c'est clairement énoncé.
Ça, c'est clairement énoncé, oui.
Y a-t-il des médecins qui s'opposent et qui disent, attention, qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent, ça suffit, là, on a fait du dégât, mais...
Alors, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a toujours pas, c'est toujours pas une majorité. Ouais. Et il y a des médecins qui pensent avoir une position comme celle-ci, mais en fait, quand on parle avec eux, on se rend compte qu'ils ont, ont commencé le chemin, enfin la déconstruction en fait, de leur pratique, mais qu'ils ne sont pas encore arrivés au bout et qu'ils n'arrivent pas encore à envisager que en fait, l'humain n'est pas binaire, que ce soit dans son genre ou dans son sexe ou dans n'importe quoi. En fait. La binarité, c'est pour des ordinateurs, ce n'est pas pour des humains. Et on voit qu'il y a un problème là-dedans. Et en fait, on dit les personnes intersexes, bon, elles ont une variation dans leur caractéristique sexuelle, mais... Après, elles peuvent être filles, garçons, non-binaires, elles peuvent être tout ce qu'elles veulent, en fait, comme toutes les autres personnes aussi.
On ne l'a pas dit encore, donc on va tout de suite le dire. Le site internet, c'est www.inter-action-suisse.ch.
C'est ça.
On trouve là-dessus énormément de choses, voilà, des informations, ce qu'on est en train d'essayer de dire également. On trouve également en contact si les personnes voudraient vous rejoindre. Alors, justement, où en êtes-vous en termes d'associations et de personnes autour de... Quelles ressources aurez-vous besoin pour continuer ce travail et pour l'étendre encore ?
De l'argent.
Ouais. C'est des dons. Non mais voilà, il faut être clair quoi. Là on.
Non mais enfin l'argent c'est le nerf de la guerre et en fait sans argent on n'arrive pas à se financer, à faire des événements, à faire des flyers, à faire enfin avoir une meilleure communication aussi digitale parce que tout ça coûte. Au début c'était nos propres sous. Moi j'étais étudiante, les autres qu'on avait des travaux mais on était plutôt enfin, on n'était clairement pas on n'avait pas les moyens, en fait, de financer ça. Merci. Et donc, on finançait parce que c'était quelque chose qui était important pour nous, qui nous tenait particulièrement à cœur, parce que c'est des choses par lesquelles on est passé. Toute cette invalidation, tout ce problème médical, etc. Et aussi le fait de pas avoir rencontré d'autres personnes. Et donc, du coup, c'était quelque chose qu'on voulait absolument réussir à faire. Maintenant, on a réussi à avoir un peu des fonds, quand même. Donc, ça, c'est déjà une chose plutôt positive pour une première année. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal, mais ça c'est quelque chose qui nous serait super important. Après, je comprends que certaines personnes, ben, elles n'ont pas forcément les moyens non plus pour mettre de l'argent dans une association, mais je pense que chaque personne a un don, un talent, quelque chose qu'elle peut mettre, que si la défense des personnes intersexes, ben, c'est quelque chose qui leur est important, ben, comme toi par exemple, à Comet, de nous donner une voix sur ta radio, ça peut être un boulanger qui dit, bon ben, moi je vois que vous faites un événement, ben, je vous donne des croissants, parce que c'est aussi de l'argent qu'on dépense finalement, des croissants, et puis on a de l'argent à mettre ailleurs que pour mettre des croissants au jambon, enfin, c'est clairement pas la priorité. Ou alors, on est un cinéma, on peut vous donner notre cinéma, une soirée pour une projection, ou bien on est informaticien, on peut vous donner de l'aide pour, votre, pour ça, ou bien n'importe. En fait, il y a plein de moyens de nous aider et puis d'être un allié, soit par l'argent, ou alors en nous évitant des frais.
Et... Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On entre en contact par le site, il y a une adresse
de contact.
Il y a
une adresse mail, c'est hello@interactionsuisse.ch. On a aussi une page Facebook. On a un numéro de téléphone. C'est mon numéro privé, donc du coup, évitez non plus d'appeler à n'importe quelle heure. Il y a plein de façons de rentrer en contact avec nous et de nous proposer votre aide ou bien enfin voilà.
Ouais, très bien. Revenons-en. Je fais des petites pauses comme ça parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement dur de nouveau d'être confronté à toute cette souffrance-là. Revenons-en au cheminement. Alors, ce documentaire,
ouais.
Quand est-ce qu'il a été fait ? Et puis, qu'est-ce qu'il aborde en quelques mots ? Parce qu'effectivement, on en est là dans ce cheminement, on en a parlé jusqu'à présent. Là, de quoi avons-nous parlé ? Du fait de déceler, de constater, même in utero, donc ça va vraiment extrêmement loin. Mmh. Quand on parle d'intrusion. Là,
on voit que la majorité des parents qui apprennent qu'ils ont un enfant qui est intersexe avant la naissance, la majorité décide d'avorter. Je pense qu'il y a justement cette crainte qui est parentale et qui est normale, mais après aussi dans la façon dont on communique aux parents l'intersexuation de leur enfant ou la différence ou la variation, ou enfin je sais pas ce qu'on peut appeler ça comme on veut, mais ben, ça va aussi participer en fait à arriver à une décision pareille. Rien contre l'avortement, c'est juste que c'est pas la raison ultime pour avorter.
Absolument, ouais. Alors justement, ce document, il est là pour expliquer tout ça, pour expliquer ce cheminement, parce qu'il faut quand même le dire, il y a les opérations, mais il n'y a pas que ça.
Non, il n'y a pas que ça. Mais en fait, il n'y a pas que ça pour beaucoup de personnes intersexes. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas opérées, qui vivent bien. Et je pense que la chose la plus lourde, comme on le voit, c'est cette invalidisation. Oui. Pardon, je suis un peu malade, à cause de ça. En fait, on n'est pas visible, on n'est pas mis en contact, on a l'impression d'être seul, on nous ment, on ne nous dit pas la vérité. J'ai le souvenir d'être allée chez des médecins et puis d'avoir posé des questions et qu'on me parlait. J'avais 8 ans et on voulait m'expliquer mes opérations et on me disait « Oui, alors Audrey, tu as des gonades et puis tes gonades, elles produisent telle et telle hormone. » Et puis donc du coup, en fait, ton corps, il est résistant à cette hormone. Et puis du coup, en fait, tu as des chromosomes XY, mais les chromosomes XY, c'est des chromosomes masculins. Mais je me disais « Mais what ?» Et à 8 ans, on te raconte une chose pareille, ben en fait... Tu te dis, ben, c'est quelque chose qui est grave. Et en fait, il y a une espèce de malaise aussi qui est dans la salle. Parce que quand on t'explique une chose pareille, ben, les parents se regardent dans le blanc des yeux et ils disent « Ouh là là !» Et puis les médecins, ils disent à les parents en disant « Ah !» J'étais là au milieu et je ne comprenais pas. Mmh. Et donc ça fait partie aussi des violences. En fait, c'est des violences médicales. Il y a aussi des violences médicales où du coup, ben, quand un enfant intersexe va à l'hôpital, ben, tout d'un coup, il y a tous les étudiants et étudiantes en médecine qui viennent regarder... comme si on était juste en fait en bout de chair. Et en fait, je pense que le fait de se sentir plus propriétaire de son corps et de son intégrité physique, personnelle, de son intimité, ça fait aussi partie de cette violence. Mmh. Et en fait, il y a plein de violences qui sont un peu partout, qui tournent autour de ça.
Ouais. Une des vertus majeures également d'interaction, c'est d'arriver effectivement à vous visibiliser et à produire des rencontres et des solidarités entre vous.
Ouais.
Parce qu'effectivement, il est extrêmement compliqué, avec ce que tu as dit là, que les personnes déjà en parlent, avec toute cette charge qui est en plus, tu sais, toujours avec cet avis de spécialiste de la blouse blanche,
bien sûr.
Qui est extrêmement... comment dire ?
Oui, mais qui est imposant, en fait.
Absolument,
et puis qui ne permet pas au questionnement. Mais du coup, en fait, aussi, dans les luttes intersexes, c'est très compliqué d'arriver aux membres. Parce qu'on ne dit pas à un enfant ou à un adolescent ou à un adulte « Tu es intersexe », on va lui dire « Tu as le syndrome XY, tu as le syndrome truc bidule, et puis il ne faut pas en parler ». En fait, il y a vraiment un espèce de truc où on a honte de son corps. Mais en fait, c'est pas le corps qui est honteux, c'est la pratique médicale qui l'est.
Ben oui. Comment on en sort ? Je veux dire, est-ce qu'on voit le bout du tunnel ? Enfin, je veux dire, du côté de ce corps médical et du côté de la conscience populaire, j'ai envie de dire, comment tu observes ça ? Est-ce que depuis que vous, déjà, avec tout le travail que vous faites, est-ce que vous voyez le fruit de ce travail ?
Alors, on voit gentiment le fruit. Enfin, ce serait compliqué de dire qu'on voit le bout, hein, mais clairement, on voit, enfin, depuis quelques années, là, on voit une évolution majeure dans la prise en charge, dans la visibilité, dans la compréhension en fait, de tout le monde de ce que c'est que l'intersexuation, et aussi les parents qui maintenant... En fait, Internet, c'est un moyen qui est incroyable. Je ne sais pas si c'est que le travail d'interaction, clairement pas. Internet, ben, on a des réseaux, on a des groupes privés, on a des assos, on peut approcher tout de suite comme ça. Mes parents, ils n'avaient pas cette chance-là. Et ça participe aussi au changement. Et on voit aussi que les gouvernements s'y intéressent de plus en plus grâce au travail extraordinaire de certains activistes qui sont allés à l'ONU, qui sont allés à la Commission européenne. Ça évolue, ça change. C'est toujours pas...
Ouais, moi j'avais une petite question, deux questions en fait, une très simple. Je voulais que tu nous rappelles combien en moyenne, quel pourcentage de personnes naissent intersexuées.
Ouais.
Et la deuxième, c'était de te demander à toi personnellement, dans ton expérience, est-ce qu'un médecin a déjà pris la peine de te demander ce que toi tu voulais et quel était ton avis ? Alors au-delà de te donner des explications, mais de savoir est-ce que ça te convenait et de simplement avoir ton avis, tu vois.
Mm-hmm. Le pourcentage, ça va peut-être surprendre plus d'un ou d'une, c'est 1,7% de la population. 1,7% de la population, on disait tout le temps à l'époque, c'est population de, enfin c'est les roues dans le monde. Mais alors, imaginez, vous allez en Écosse, puis vous voyez tous ces roues. Il y a vraiment beaucoup de personnes intersexes. Vous allez au Bénin, vous vous dites, putain, je suis vraiment le seul. Hein. Alors du coup, moi j'ai calculé ce que ça représentait, 1,7% pour la Suisse. Parce que c'est quand même peut-être plus visible, enfin on arrive mieux à s'imaginer. C'est moins eurocentrique. Du coup, 1,7% de la population suisse, ça représente la ville de Lausanne. Et un peu plus.
C'est, voilà.
La ville de Lausanne est le petit village dans lequel je vis, plus ou moins. Donc c'est énorme, parce qu'on connaît tous et toutes une personne qui vit à Lausanne, qui a vécu à Lausanne, qui vient de Lausanne, qui a de la famille à Lausanne, ou... Enfin, je sais pas. Et en fait, on connaît tous une ou plusieurs personnes qui est intersexe, sauf qu'on ne le sait pas, à cause de tout ce qui est autour, de cette espèce d'aura négative et de secret et de la honte. Et ça, c'est pas bien, tout simplement. Ta deuxième question, c'était...
Demander, si on t'avait demandé...
Ah oui. Tout simplement, non, on ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Là, dernièrement, je suis allée chez le médecin pour un changement de traitement hormonal. Et donc là, c'était un peu compliqué à faire comprendre au médecin de ce que je voulais, mais finalement, il l'a accepté. Mais c'était maintenant que je suis adulte, que je suis quand même bien dans mes baskets, que je sais de quoi je cause, et que j'ai de l'expérience, et que je suis en une communauté. Je pense que si j'avais été... Enfin, pas la même question coquette il y a 5 ans ou 10 ans, déjà, ça aurait été plus compliqué, parce qu'on a moins de connaissances, mais aussi, j'aurais peut-être pas eu le courage de la demander. Mais non, on m'a jamais demandé si j'étais d'accord avec les traitements qu'on m'a faits.
Les personnes qui vous rejoignent, je veux dire les personnes intersexes qui vous rejoignent en cours de route actuellement, quelles en sont les trajectoires ou quelles en sont les origines ? En quelques mots, tu saurais le dire ?
Non, parce que les personnes intersexes, elles ont tellement de trajectoires. Enfin, c'est comme si je te demandais les trajectoires des personnes qui viennent parler sur ta radio.
Non, tout à fait. Je me demandais si effectivement, au travers du site, les personnes venaient en disant, voilà, j'ai été informée.
Non, il y a des personnes qui ont cherché activement parce qu'elles savent qu'elles sont intersexes et qu'elles avaient besoin de rencontrer quelqu'un. Donc, elles ont cherché sur Google intersexe suisse, enfin, je sais pas. Il y a des personnes qui ont nous contacté par le biais de ma chaîne YouTube qui s'appelle « Il y a une couille avec votre fille ». Sinon, il y a des personnes qui nous ont contacté par Facebook. Il y a des personnes qui nous ont contacté parce qu'elles sont allées sur le site. Enfin, elles ont parlé à d'autres activistes dans d'autres pays qui leur ont dit « mais va en Suisse ».
D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, il y a encore un défaut d'orientation de la part d'organismes qui... Voilà.
Ben, du coup, là, on travaille de plus en plus avec des bureaux d'égalité. La ville de Lausanne, de Berne nous a mis dans sa liste. La ville de Zurich... On travaille aussi de plus en plus... Enfin, on a des flyers qu'on va envoyer du coup à tous les hôpitaux pour essayer qu'il y ait ce flyer qui puisse se donner aux parents, qui se donne aux personnes. On a aussi un numéro de contact les lundis, mardis, dimanches pour les personnes intersexes et pour les parents. Comme ça, s'il y a un besoin de nous parler à l'oral, on peut toujours nous appeler.
Voilà, et ça justement, alors c'est quelque chose que vous faites également, c'est répondre aux questionnements des parents.
Oui, oui. Ben, je pense que c'est très important parce que c'est une des premières... C'est les premières victimes, en fait, dans certains cas.
Et là, il y a des questionnements souvent qui reviennent.
Mais je pense que les parents, ils ont surtout besoin d'avoir de voir que les personnes intersexes sont des personnes qui sont normales, aussi anormales que les autres, qui peuvent être bien, qui peuvent être bien dans leur basket, qui ont des sentiments, qui peuvent réfléchir, qui peuvent avoir un travail, qui peuvent, des personnes comme toi et moi.
Oui. Le poids du corps médical, là encore, est-il prépondérant ou bien on sent que ça revient un petit peu à l'équilibre ou...
Ben, on voit qu'il y a des parents qui se posent de plus en plus de questions.
Ouais. Donc ils vont chercher peut-être ailleurs.
Ils vont chercher un peu plus loin.
Ouais, ça c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais. Et okay. Je pense que les réseaux sociaux et Internet, ça a été vraiment quelque chose clé.
Et alors maintenant, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas au bout du tunnel. Quel travail vous attend ? Vous allez continuer d'informer comme ça ? Quelle est l'actualité de l'association ? Est-ce que vous allez continuer justement au plus possible d'intervenir là où vous pourrez le faire ?
Ben alors, non, on va travailler comme maintenant. De plus en plus, parce que on est de plus en plus de personnes, du coup on a de plus en plus de force, on a de plus en plus de contacts, un réseau qui s'agrandit. On va travailler avec la Pride à Genève, qui sera la dernière semaine de juin, sauf erreur. On va travailler avec les politiciens, plein de travail qui nous attend, aussi avec la presse, avec ma chaîne YouTube, je vais faire plusieurs vidéos et voilà.
Est-ce que vous avez la volonté, parce que si j'ai bien compris, il y a vraiment un gros souci avec le corps médical qui reconnaît une personne intersexe comme étant malade.
Il y a une pathologisation des personnes intersexes.
Pathologisation, ouais. C'est ça le terme que je cherchais. Est-ce que Interaction a la volonté d'aller peut-être au-devant des médecins pour les former, c'est peut-être pas le bon mot, mais les informer en tout cas qu'en fait, ben, c'est pas tant une pathologie que ça, et puis qu'un changement de regard par rapport à ça serait souhaitable. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être de lobbyisme médical à ce niveau-là ?
Alors, on le fait un peu, on donne des cours, on participe à un cours qui est à l'UNIL pour les étudiants et étudiantes de troisième année, sauf erreur. Mais à nouveau, quand on parle avec des médecins, ben, souvent ils nous prennent juste comme un cas à part. Il y a aussi un problème de légitimité, il y a aussi un problème de turnover. On va parler conversion en fait. On va parler à des étudiants, et après ils vont être dans la pratique. Peut-être que dans ces 30 personnes qui sont dans la classe, il y a peut-être un qui va être en chirurgie pédiatrique. De celui-ci, il va devoir travailler avec un chef qui n'aura pas eu la même formation. Donc du coup, au final, est-ce que ça a vraiment valu la peine ? Et aussi, ça fait des années et des années, plusieurs décennies, que les personnes intersexes vont parler avec les médecins, vont parler avec le corps médical, vont parler avec toutes ces personnes du domaine de la santé. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout efficace comme façon d'approcher la chose, que les médecins, ou que le corps médical en général, je ne veux pas non plus mettre une espèce de diabolisation des médecins, parce que c'est des médecins qui sont très bien aussi, mais il y a une espèce de... En fait, on se rend compte que l'activisme par rapport aux droits humains, donc avec l'ONU, avec les gouvernements, de dire, en fait, ces mutilations, c'est des droits humains, il faut créer des lois, il faut qu'elles soient punissables, il ne faut pas que ça puisse être fait sans le consentement éclairé de l'enfant ou de la personne. En fait, ça, ce sera plus efficace parce que là, il y aura une peur du corps médical. Si on va parler à des médecins là et là et là, après, il y aura toujours un chef, il y aura toujours une hiérarchie dans l'hôpital et ça va pas aller. Et ouais, du coup, ça fait vraiment des décennies que les activistes font comme ça et ça fonctionne pas, malheureusement.
On le rappelle, www.inter-action-suisse.ch. Comment ça se fait que ce consentement éclairé que les médecins recherchent pour dans d'autres disciplines, eh bien, on ne le retrouve justement pas là où c'est peut-être encore plus prépondérant.
Mais à nouveau, ça change de plus en plus, heureusement. Mais en fait, tout ça vient de la base de la prise en charge de John Money. Donc John Money, c'était un médecin dans les années 50 qui était nouveau-zélandais, sauf erreur, et qui travaillait aux États-Unis. Et c'est lui en fait, qui est arrivé sur ce protocole médical autour des prises en charge des variations du développement sexuel. Voilà. Et en fait, lui, il disait qu'il fallait que ce soit fait rapidement, donc juste après la naissance, ou dans les premiers mois, pour que l'enfant ne s'en souvienne pas. Il fallait que ce ne soit pas dit, qu'on n'en parle pas autour de l'enfant, donc aux grands-parents, aux oncles, tontes, etc., qu'on n'en parle pas à l'enfant lui-même, parce que ça pouvait lui poser des questions. Et en fait, tout ça, c'était pour que l'enfant... En fait, on partait du principe que si l'enfant avait un corps avec une vulve, qui ressemblait à une vulve normale, entre guillemets, qui avait... tout ça, qui était une fille normale, et qu'on ne lui disait pas qu'il y avait une variation, ben cet enfant va se développer avec une identité de genre qui est, entre guillemets, celle d'une fille normale. Mais c'est pas vrai. Parce que l'identité de genre n'a aucun lien avec les caractéristiques sexuelles. Et en fait, il y a vraiment un problème. Ces opérations, elles sont faites autour de transphobie. Parce que quand on voit une personne, moi je te vois, je me dis ben t'as un pénis. Et en fait, si il faut que du coup quand je te vois, je me dise ben t'as un pénis, ben t'auras un pénis. Et donc du coup, on n'arrive pas à imaginer que des personnes peuvent avoir des corps variés et puis que ça a aucun rapport. Ensuite, il faut absolument que ces enfants aient une possibilité d'avoir un rapport pénétratif, donc un rapport hétérosexuel. Et donc du coup, en fait, on se rend compte que ces opérations-là, elles sont faites, elles sont axées autour d'une transphobie, donc de fait qu'on doit savoir si c'est vraiment une fille ou si c'est vraiment un garçon, et il faut aussi, aussi d'une homophobie, parce que parce qu'un vrai rapport sexuel, c'est un rapport qui est fait entre une fille qui a une vulve et un garçon qui a un pénis.
On le voit d'ailleurs très bien, et ça nous permet de, c'est la transition toute faite pour parler du documentaire que l'on va projeter sous peu. On l'entend bien lors du documentaire où voilà, bah, une des personnes dit bien qu'ensuite elle va encore chaque semaine, je crois, jusqu'à 12 ans, me semble-t-il, à l'hôpital où on l'endort et où voilà, on pratique la pénétration.
Ouais, c'est plus ou moins ça.
Pour, disons, comment dire, garantir que...
Qu'un sexe format, moyen voilà, puisse...
Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on garantit là, finalement... que la normalité qui est cette binarité dont on vient de parler, eh bien, soit effective et consacrée.
Ouais.
Donc c'est vraiment, on est vraiment dans des situations quasiment irrationnelles.
En fait, on parle d'opération, on pense souvent, mais en fait, on va faire une opération, on va faire un vagin, on va faire n'importe. Ouais. Hein. Et après, ce sera bon. Après, c'est un enfant qui est, entre guillemets, normal. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que ces opérations, c'est des greffes, c'est plein d'opérations qui sont super intrusives, qui sont faites sur des corps, qui sont faites avec des tissus qui sont nerveux, qui sont faites, et il y a plein de complications qui sont autour, et c'est vraiment jamais le cas, en fait, qu'une personne aille une fois à l'hôpital et qu'après, en fait, ce qu'on a promis aux parents ou ce qu'on a promis à la personne, ce soit vraiment le cas. Il y a plein d'effets secondaires, mais en fait, ces effets secondaires, ça peut être chirurgicaux, enfin, comme tu dis, là, ces dilatations qui sont répétées sur des corps d'enfants qui ont eu une vaginoplastie. Mais ça peut aussi être, par exemple, on fait des gonadectomies, donc on enlève des gonades, donc sur les testicules, des ovaires, etc., qui sont en général à l'intérieur du ventre, avant même qu'il y ait un traitement hormonal substitutif. Donc du coup, dans mon cas, c'était à 8 ans et j'ai commencé un traitement hormonal à 12 ans. Donc, il y avait 5 ans entre où j'avais aucun apport d'hormones. Donc, c'est des hormones de croissance, la testostérone, l'androgène, l'œstrogène et la progestérone. Ces hormones de croissance, elles vont faire, à partir d'un certain âge, que tu vas développer des seins, des hanches, une pilosité faciale, des muscles ou n'importe. Mais ça va aussi faire après et avant et pendant que tes os, par exemple, ils vont être plus solides. Et donc du coup, en fait, on voit que ces enfants qui ont des gonadectomies comme moi, elles ont beaucoup plus de risques d'avoir de l'ostéoporose plus tard ou même maintenant. Donc moi, je vois que mes os, je dois aller régulièrement chez le médecin pour checker que je ne descende pas en dessous d'un palier type. Et donc c'est aussi un problème parce que l'ostéoporose, c'est quelque chose qu'on a régulièrement quand on a 60-70 ans ou je ne sais pas quel âge, mais pas à 25 ans quoi. Et ouais, ça c'est un problème.
Alors justement, ni d'Ève ni d'Adam, d'où est venue cette idée et comment est-ce que ça s'est passé pour faire ce documentaire qui est extrêmement intéressant et qui aborde justement ces sujets?
Ouais, mais en fait, Floriane Devine, donc la productrice, a dû faire un film sur ce sujet-là.
Donc c'était une commande au départ de la chaîne
C'est de France 2.
De France 2, ouais.
Je ne sais pas exactement, pour être très honnête.
Mais ce que je veux parler, c'est que voilà,
c'était une demande que Floriane fasse ce film. Okay. Floriane n'avait absolument aucune idée de ce que c'était qu'une personne en tarsax, comme beaucoup de personnes. Donc du coup, Floriane a été sur la mailing list de l'OI Francophonie, donc l'Organisation Internationale pour la France, enfin la Francophonie, et a écrit « Je fais un film sur le sujet des personnes intersexes. De quoi avez-vous besoin ?» Grosso modo. Ce qui est une bonne façon de faire, parce qu'en fait, on ne demande pas... moi, j'ai envie de faire un film sur où on voit des organes génitaux toutes les deux secondes. De quoi as-tu besoin, toi, personne intersexe, pour pouvoir faire son travail? Et donc là, il y a une personne avec une fausse adresse email une adresse email anonyme qui a écrit à Floriane et qui a dit « Madame, moi, je pense qu'il faudrait faire un film sur les personnes intersexes qui n'arrivent pas à transcender la honte et le chagrin par des revendications militantes. » Parce que c'était son cas. Floriane était là « Waouh, ça, c'est vraiment de la réponse. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer et puis voir comment je peux faire ça. » Alors, elle a insisté, et finalement, Marion... c'était le nom qu'elle s'était donné dans ses emails, a rencontré Florian dans un café. Elles se sont parlé et Florian a dit « Marion, il faut absolument que tu sois dans mon film ». Marion était là « Ouf !» Et donc, il s'en est suivi un mois de tournage sans que la caméra soit allumée, juste pour que Marion puisse, qui serait devenue M dans le film, pour que M puisse s'habituer à être face à une caméra, à parler. On s'est demandé, est-ce qu'on veut mettre des pieds? Est-ce qu'on veut mettre juste son ombre? Est-ce qu'on veut mettre un floutage? Est-ce qu'on veut mettre une fausse voix? Il y avait un moment où on voulait mettre un gros M sur son visage. Et finalement, ben, ça fait quelque chose de beaucoup plus, plus artistique. C'est ce corps qui est d'abord tout noir et finalement qui devient de plus en plus de couleurs et qui s'estompe au fur et à mesure des rencontres et des expériences.
Oui, ça c'est une forme qui est extrêmement bien faite, avec beaucoup de pudeur et en même temps, c'est extrêmement combatif. Ouais. Le documentaire est une réussite, je trouve.
Et puis, en fait, ce qui est fou, en fait, c'est que Florian, en fait, elle filmait au jour le jour. Elle l'avait rencontré, moi et Déborah, par le médecin qui nous avait opérés. Et
que l'on entend,
que l'on entend parler, ouais. Et donc du coup, elle nous a filmé et puis elle s'est rendu compte que M et Déborah avaient une belle plume. Elles écrivaient des jolies lettres qui étaient sincères, qui étaient profondes. Et elle s'est dit, on peut tourner le film autour de ça. Au début, c'était autour du master de Déborah, puis au début, c'était autour, on savait pas trop en fait. Et elle prenait les choses comme elles venaient et finalement il est devenu un film qui est vrai, qui est authentique et qui reflète bien en fait cette rencontre entre M, Déborah et moi. Voilà.
Très bien, très bien. Effectivement, en tout cas, on se réjouit de le visionner tout à l'heure. On le rappelle encore, donc www.inter-action-suisse.ch si des questions surgissent. Alors approche-toi seulement et tiens, allez, il y a un micro ici. Attends, je vais juste prendre le numéro du micro. C'est le numéro 2, si jamais. Voilà.
Salut.
Salut.
C'est pour le... En fait... elle a déjà posé la question sur le pourcentage.
Ouais.
Et comment vous pouvez faire ce pourcentage? Parce que mondial, allez, on dit mondial.
Ouais, d'accord.
En Bénin, ils n'ont pas l'IRM. T'imagines, en Bénin, tu sais, en Bénin, une femme qu'elle sort avec une fille, non, avec un truc comme ça. Combien, je crois, ils sont enterrés tout de suite. Hein. Combien de cas on ne parle pas de ça?
Peut-être ah oui,
t'as de la chance ici, t'es en Europe, peut-être... T'es en vie, hein? Il y a plein de cas en vie. Hein. Mais combien de gens ils sont brûlés tout de suite?
Oui,
là.
Mais il y a beaucoup
vous
de.
Vous avez l'IRM, tout ça. T'imagines, hein, dans l'autre monde, en Inde, en Afrique, en Sud-Amérique, là. Peut-être vous êtes beaucoup, hein? Vous non, êtes alors. Très beaucoup, hein? Et c'est pas. Et je crois ils parlent pas, là. T'as le micro, toi.
Mm-hmm.
Mais. Vous êtes des milliers, des milliers.
Ah oui, oui, oui. On est...
Et pas... Voilà, c'est pas... Ouais. Vous n'êtes pas tout seul dans le monde. Le monde, il est grand.
Oui, je sais.
Mais voilà, quand tu m'as dit que ici, les médecins, ils font l'avortement. Ils proposent l'avortement à la femme ici parce qu'ils ont la technologie, l'IRM, tout ça. Terrible, hein. C'est terrible, là.
On va écouter la réponse.
Mais imagine qu'un autre, il n'a pas l'IRM, tout ça. Et hop, surprise. Tac. Il y a l'autre en Inde. Combien? Vous êtes des milliers, on croit. Et il faut...
En fait, le 1,7% de population, c'est un
combien
chiffre. 1,7%.
Mais il n'y a pas 1,7. Le monde, il est grand.
Non. Laisse-la répondre.
En fait, 1,7%, c'est un consensus qui est généralement accepté. Quand on parle avec des médecins, on va souvent parler d'un syndrome. On va dire bon, il y a 0,002% de la population qui a tel et tel syndrome. Ou il y a 0, je raconte qu'il y a celui-ci. Quand on parle d'intersexuation, certains chercheurs ont dit de 1 à 4%. Il y en a d'autres qui disent en tout cas 4. Il y en a qui disent n'importe. Mais donc du coup, en fait, l'ONU, qui est l'Organisation internationale l'Organisation des Nations Unies...
Ils ne sont pas faire le tour du monde, l'ONU. Hein.
Non, mais quand tu fais un pourcentage, tu ne peux jamais chercher dans tout le monde. Voilà. Mais... Ouais. Mais tu regardes, en fait, on s'est rendu compte quand même, parce qu'il y a eu des recherches. Il y a une organisation en Afrique, il y a l'organisation d'Afrique du Sud, il y a une organisation au Kenya, il y a une organisation. Et je suis en contact avec une personne intersexe au Tchad, et je te donne tellement raison que c'est pas du tout. Enfin, c'est pas le même vécu. Mais il y a quand même des recherches qui sont faites. En fait, on recense quand même les personnes intersexes. Et on arrive quand même à arriver à un pourcentage. Et en fait, le 1,7% de population, ben, c'est pas. c'est pas un truc fixe, quoi. Mais
bien
c'est
sûr,
juste,
bien sûr, bien sûr.
C'est juste ce qu'on accepte en général.
Non, et puis on comprend que voilà, la recherche, elle est là. Il y a une tentative de comptabiliser, parce qu'on sait que c'est important
de comptabiliser, ouais.
Pardon, de quantifier. Et puis, bon, bah, voilà, ce chiffre, comme tu viens de le dire, est certainement amené à évoluer dans les années.
Mais oui.
Comme ça. Alors, justement, ça fait partie de l'éducation populaire que vous faites à Interaction. Quels sont les arguments, justement, que vous mettez vraiment tout de suite en valeur et que vous exprimez quand vous allez au-devant de personnes qui sont effectivement étonnées d'apprendre ce chiffre-là et tout ce qui va avec?
Mais en fait, ça dépend toujours des personnes face à qui on parle. Si on parle avec des politiciens, on va leur parler des violations des droits humains, on va leur parler du cas de Malte, qui est le seul pays au monde à avoir interdit ces opérations. On va leur parler de l'activisme, de comment ça a été évolué, depuis John Money à aujourd'hui, des choses comme ça. On va parler avec des parents, on va leur dire, en fait, vous avez plein de moyens qui sont pédagogiques pour éduquer votre enfant et qu'il soit fier de son corps, qu'il soit fier de qui il est et qu'il puisse être libre de son choix et de son corps et qu'il puisse le posséder comme il le veut. Quand on va parler avec des personnes intersexes, on va leur faire un câlin, tout simplement, parce que des fois, ça va être...
Oui.
Non, mais voilà. Ouais, et donc, du coup, ça dépend toujours de la personne avec qui on parle. Et dans quel contexte. Mais ouais, mais par exemple, avec des parents, mes parents, ils m'avaient par exemple dit que je devais adopter un enfant. Et donc, en m'expliquant l'adoption, on m'a dit, ce serait... Du coup, j'avais une bibliothèque et j'ai joué avec ma sœur à adopter, parce qu'avant, on mettait... les poupées sous notre ventre et on les accouchait. Et mes parents, ils étaient, c'est peut-être pas forcément le truc le plus judicieux à apprendre à notre fille si on sait qu'elle ne pourra pas en avoir. Il y a d'autres mamans qui sont allées dans des écoles et qui ont dit, regardez, votre camarade de gauche et votre camarade de droite, vous voyez, ils n'ont pas le même nez. En fait, toutes les parties de vos corps sont différentes. C'est normal. Et, parce qu'on est tous humains, on est tous différents.
Ouais. Audrey, tu as 25 ans?
Oui. 26, pardon.
26 ans maintenant. Il y a une question encore. Alors, rapproche-toi seulement, Pierre, et saisis-toi dans le micro. Et je reviendrai après avec la question que j'ai également. Pierre, oui, celui-là, c'est bien.
Moi, j'ai une question. En fait, deux questions. La première, est-ce que tu considères qu'il y a des traitements qui peuvent être légitimes?
Oui, il y a des traitements qui sont indispensables pour la vie de l'enfant. Par exemple, dans certains cas, il y a une perte de sel, donc du coup, on doit donner une hormone pour que, en fait, la cortisol soit mieux absorbée, ou je ne sais pas exactement comment ça se passe, parce que je ne suis pas médecin, mais... Et donc ça, c'est juste un traitement qui est fait, parce que sinon, l'enfant va mourir. Donc à ce moment-là, c'est clairement légitime. Mais c'est des fois des problèmes avec l'urine, donc, qui n'arrive pas à descendre, ou des choses comme ça, et donc ça, c'est aussi des traitements qui sont légitimes. Okay. Quelque chose qui est pas... Et tous les traitements, en fait, sont légitimes s'il est consenti par la personne.
Et en fait, c'est ma deuxième question. Pour toi, c'est quoi le problème principal? C'est qu'on n'en parle pas ou c'est qu'on n'attende pas un consentement éclairé?
Le problème principal, c'est qu'on n'attend pas un consentement éclairé. Mais je pense qu'elles s'imbriquent vraiment ensemble, parce qu'en fait, on n'attend pas parce qu'on n'est pas informé, et parce que les parents, quand ils ont un enfant qui est intersexe, ils le découvrent en général. Avec la naissance de leur enfant.
D'accord.
Mais le problème principal, c'est qu'on n'attend pas que l'enfant puisse décider pour lui-même. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va handicaper son corps, qui va avoir un impact énorme sur sa vie, sur sa santé, sur ses plaisirs.
Sur son corps et sur son être, tout entier, bien entendu. Ouais. Alors, 26 ans, on l'a dit, tu es donc extrêmement engagé dans l'interaction. Comment doit-on apprendre à vivre lorsque l'on est intersexe? Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a un traitement à vie.
Dans certains cas, oui.
Dans certains cas, des souffrances qui sont physiques, en tout cas pendant de longues années. Est-ce qu'à un moment donné, on sort de ça? Et comment est-ce qu'on apprend à vivre avec ça?
Moi, j'ai appris à vivre avec ça en rencontrant des personnes et puis en étant de nouveau propriétaire de mon corps, en me rendant compte que je peux faire ce que je veux avec mon corps. Mon corps, il est fonctionnel, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il est ni malade, ni bizarre, ni anormal, qu'il est juste un corps qui fonctionne, qui est beau et qui est magique.
Très bien. Je crois que c'est une très bonne conclusion. À moins que des questions surgissent encore. Oui, voici.
Salut. T'as dit tout à l'heure qu'une des activités de l'association dans laquelle tu es, c'est aussi de faire du lobbyisme auprès des politiques. Mm-hmm. Je voulais savoir ce que vous cherchiez à ce niveau-là, au niveau politique, et quel est le message que vous essayez de faire passer pour ces personnes particulièrement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous?
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? C'est, en fait, il y a plusieurs choses qui sont... Là, souvent, au niveau politique, aujourd'hui en Suisse, on parle beaucoup de la troisième catégorie. Et ça, c'est pas quelque chose, en fait, qui est une fausse bonne idée. Et donc, il y a beaucoup de politiciens qui pensent bon, on va rajouter une troisième catégorie, comme ça, les enfants intersexes, ils auront leur case. Enfin, c'est ni des filles, ni des garçons. Mais en fait, ces catégories-là, elles sont personnelles. Et donc, ça doit être pour des personnes qui le veulent. Donc, nous, on ne veut pas ça. Donc, ça, c'est déjà une chose. Parce que quand y a des politiciens qui veulent s'engager, ben, c'est tant mieux. Hein. Mais souvent, c'est la solution qui arrive. Ce n'est pas la solution qui est souhaitable. C'est une fausse bonne idée. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on crée des lois qui interdisent ces opérations. Qui les interdisent sans le consentement de la personne. Donc, elles ne doivent pas être interdites tout court, parce que ce ne serait pas bien non plus. Mais qu'elles soient interdites, du moins, tant que la personne n'est pas... N'a pas consenti, en fait, et qu'elle ne soit pas au courant de tout ce qui va lui arriver.
Qu'elle ne puisse pas être, qu'elle soit pas en état, justement, de former ce consentement. Ouais.
Du coup, j'ai une autre question. Le consentement, je crois que si c'est dans des questions médicales, ça vient aussi avec l'âge. Est-ce que retarder, pour les médecins qui souhaitent l'opération très jeune, est-ce que c'est justifié pour des raisons médicales de le faire sur des enfants très jeunes? Est-ce que, pour que cette opération marche pour ceux qui la voudraient, est-ce que ça aurait été mieux pour eux qu'ils la fassent quand ils étaient très jeunes?
Non. Okay. En fait, c'est même le contraire. On se rend compte que les tissus, ben, ils grandissent. Et quand ils sont opérés, ben, il y a des cicatrices qui durcissent, des cicatrices qui fonctionnent pas, qui grandissent pas avec le corps, en fait. On se rend compte aussi que, ben, comme c'est dit dans le film, le médecin il dit très bien, quand on coupe mon clitoris... c'est plus facile de le couper quand il est plus grand que quand il est plus petit, parce que tout simplement c'est plus visible, on arrive mieux à faire, on est moins avec une loupe. Et ouais, en fait non, c'est même plus facile après, et le corps il réagit mieux. Moi, mon corps il a mal réagi parce que j'avais pas de substitution hormonale.
Oui, c'est pour ça également qu'on parle de mutilation, c'est parce qu'effectivement ce sont des il n'y a pas un cas médical d'urgence qui vital par exemple qui nécessiterait ce type d'intervention.
Alors ce genre d'intervention non, il y a des interventions qui sont vitales pour les enfants intersexes.
Bien sûr.
Et ça il faut surtout pas les interdire.
Mais
ce qu'il faut interdire, c'est justement, en fait, le but de tous les traitements, dans la médecine, en fait, il faut que le patient soit informé de ce qui va lui arriver, à moins que ce soit quelque chose qui soit vital. Il doit être informé, il doit être consentant, il doit décider, ben oui, en fait, je veux le faire ou non, je veux pas le faire, voilà. Et en fait, on laisse pas cette opportunité-là aux personnes intersexes, on les laisse pas se définir. Et c'est des opérations qui sont, qu'on peut pas retourner en arrière. Et voilà.
Non, puis alors qu'on sait que c'est effectivement le cas dans tout plein d'autres disciplines médicales. Donc il s'agit là vraiment d'une exception, voilà, qu'on n'explique pas. Enfin, si, qu'on n'explique pas, on comprend bien pourquoi, mais voilà. Tu as parlé juste de Malte. À Malte, ces opérations sont interdites. Y a-t-il d'autres exemples desquels on pourrait s'inspirer pour dire regardez, c'est possible, les gens l'ont fait là-bas. Il faut qu'on change cette législation.
Mais je pense que toi, comme tu l'as dit, dans certains pays, on voit qu'ils n'ont pas les moyens ou pas la possibilité d'opérer des enfants intersexes ou des personnes intersexuées. Oui, non, mais quand ils sont nés et donc du coup, ces personnes-là, on se rend compte, en fait, ils n'ont pas de problème de santé non plus.
Ouais.
Et que ou pas plus que une population diadique, donc pas intersexe.
Ouais. Très bien, très bien. Écoute... On va rappeler encore le site internet, donc www.inter-action-suisse.ch.
Mm-hmm.
Là-dessus, il y a un formulaire de contact.
Oui.
On appelle toutes les personnes à
se mobiliser,
à s'informer par rapport à ça. Nous, tu sais que nous sommes des alliés, certainement et indéfectibles. Donc, à tout moment, tu feras appel à nous. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains temps? C'est de continuer la lutte.
D'avoir la force.
D'avoir la force de continuer.
Parce que des fois, c'est fatigant, je t'avoue. Ouais. Mais oui, c'est la meilleure chose que vous pouvez nous souhaiter, d'avoir la force et puis de nous soutenir et puis que ça change, quoi.
Ouais.
Mais d'accord. Ça change.
Ça change, c'est en cours en tout cas. C'est aussi grâce à vous et grâce à toutes les personnes qui, justement, sont de bonne volonté.
Mm-hmm.
Audrey, je te remercie beaucoup.
Merci à vous.
Bonne
et puis, bon film.
Et puis, ouais, merci beaucoup pour d'avoir mis à disposition le documentaire. Et puis, on se retrouvera certainement dans pas très longtemps.
Oui.
Je te souhaite une bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Ciao. Merci. Voilà, alors nous, eh bien, nous allons faire maintenant cette fameuse pause radiophonique pendant laquelle un podcast autour de l'informatique vous sera proposé. Et ici, au Festival Les Sans Culottes, eh bien, nous allons visionner le documentaire Ni d'Ève ni d'Avant. Et on se retrouve après.